Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir, bonjour, bon matin, bonne nuit, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album, à la BD Han Solo et Chewbacca, donc le premier volume de deux là, paru récemment chez Panini Comics. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, ici Francis en direct de Québec et de l'autre bout complètement du continent, on rejoint le pirate John Sparrow. Ça va Jean?
Salut Francis, bonjour à tous, ça va super, en direct de Vancouver. Super.
Et avant d'aller plus loin, on va, comme à notre habitude pour les littératures, saluer notre partenaire, donc Star Wars Littérature Québec. On vous invite à joindre le groupe si ce n'est déjà fait, que vous soyez québécois ou non, et à participer à la collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. C'est très important et très apprécié.
Tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué que sur leur page Facebook, là, ils ont mis en ligne des podcasts. Ils font des podcasts également, Star oui. Wars Littérature Québec. Et le dernier oui, sur Dark Plagueis.
Vraiment des clubs de littérature, on pourrait appeler ça comme ça. Là, des discussions autour d'un thème X. Là, donc, on vous invite à aller écouter ça. C'est très, très plaisant. Ouais. Et on salue l'équipe de Star Wars Littérature Québec, bien sûr. Ouais. Claude et Benoît en premier plan. Et je vais peut-être me faire chicaner, j'oublie.
Toute l'équipe. Et toute l'équipe.
Toute l'équipe, c'est ça. Ça résume bien. Donc, voilà. Un WhatsApp rapide, Jean?
Ah oh yes, un WhatsApp. Alors attends, j'ouvre le fichier avec ma liste de WhatsApp en retard.
ouais. Quelqu'un d'organisé.
Ouais, non, parce qu'il y en a tellement. À chaque fois que je fais un truc Star Wars, je le marque au cas où que j'oublie. Ben en fait, là, je vais rester sur du WhatsApp littérature avec deux recommandations, slash, critiques rapides, quoi. Déjà, ben, j'ai beaucoup pensé à toi en finissant la mini-série sur Porter Engel, ton personnage de la Haute République préféré, qui s'appelle The Blade, par Charles Soule. Que t'as dû lire toi aussi de ton côté.
Non, je suis très en retard dans mes comics, donc je vais me faire une petite soirée rattrapage bientôt là.
Ouais, voilà, après c'est vite fait, c'est 4 numéros, donc il y a le tome qui va sortir bientôt en VO et dans la foulée en France, donc on en fera une critique ici aussi. Hein.
Et, d'autant qu'il est, pour sans spoiler, parce que c'est dès le début du premier numéro, on le voit, mais on parle ici d'un Jedi qui va devenir une légende plus tard, là, mais qui est Jedi avec sa sœur. Donc c'est ça. Ça, c'est une relation vraiment frère-sœur, qui les deux sont Jedi, donc c'est intéressant à suivre.
Très, très intéressant, et un petit feeling vintage, moi ça m'a fait penser à Tale of the Jedi, justement, le comics de légende de Tom Veitch. T'as un petit feeling fantasy, plus que Star Wars du coup, donc ça m'a beaucoup plu, et donc très bonne lecture, et ça ouvre en plus sur une prochaine haute mini-série qui s'appellera The Broken Blade, et qui continuera donc les aventures de Porter Engel et de sa sœur, donc ça c'est très cool. Et une autre recommandation, j'ai lu le one-shot en comics qui s'appelle Revelations, et qui est en fait une sorte de prélude à Hidden Empire, donc le dernier crossover des séries régulières en ce moment, et qui est en gros un tie, enfin ça se passe entre Crimson Reign, le précédent crossover, et Hidden Empire. Et en fait, c'est un numéro d'une trentaine de pages, crossover, avec donc t'as tous les personnages de toutes les séries, donc t'as du Star Wars avec les héros principaux, il y a Afra et ses amis, quoi, tout le groupe d'Afra, Sana, tout ça, t'as Dark Vador avec tous ses potes aussi, et les Bounty Hunters, t'as tout le monde dans un numéro de 30 pages. C'est assez spécial à lire, moi je trouve ça un peu pas terrible en fait, hein, parce qu'il essaie vraiment de mettre au forceps.
Han Solo et Chewbacca aussi, il me semble que c'est, il y a un petit, mais ouais, il avait fait ça déjà pour, quand il y a eu la transition des séries de 2015 vers les séries de 2020, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu ça, aussi c'était Empire Ascendant, quelque chose comme ça.
Mais
c'est un gros numéro avec plusieurs, on va appeler ça des courts-métrages, là, mettons, là, des petites histoires pour faire comme la transition. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'idée. Là.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, et ça ressemble à ce qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est, en fait, t'as Dark Vador qui raconte une histoire à quelqu'un, et bah, au fameux Webishbog, l'espèce de grosse bestiole là, sur Mustafar, là, qui était censé être dans l'épisode 9 et qui s'est fait couper, qui est dans la novélisation, blablabla. Et donc il raconte des trucs, et c'est des sortes de flashbacks sur les différents héros de ces séries régulières. C'est très très lourd à lire, j'ai trouvé ça un peu inutile. Et c'est intéressant parce que si vous lisez en VF, c'est comme c'est la transition entre Crimson Reign et Hidden Empire. Hidden Empire, donc l'Empire caché, j'imagine, qui traduit ça en français, qui se déroule en ce moment même en France chez Panini.
Simplement, ce sont.
Ah, ok.
Ah, ben, dans le texte là, des BD, oui. Là, le titre, évidemment,
oui.
Panini, encore une fois, a gardé le titre anglophone.
Et oui, t'as raison, comme les deux précédents crossover. Et là, c'est bien parce qu'ils ont mis ce one-shot-là au tout début du tome 1 de Hidden Empire. Donc c'est cool, ça fait sens, quoi.
Oui, ben c'est ça, il avait fait la même chose quand on était passé, comme je disais tantôt, des séries de 2015 ou 2016 pour Afra aux séries de 2020.
D'accord.
Mais, bref, on vous invite à aller voir ça quand même. De mon côté, ouais, c'est littérature. En fait, la seule chose Star Wars ces temps-ci, c'est l'écoute de l'audiobook de Cataclysm, qui sera notre prochain roman là, à être critiqué à Star Wars en direct. Donc, je m'attendais pas, je me limiterai à dire aujourd'hui que je m'attendais pas à une suite aussi directe de Convergence. C'est vraiment, là, je m'attendais quand même à ce qu'il soit passé du temps ou quelque chose, là, mais c'est même, et c'est la suite directe de
Battle of Jedi, c'est
Battle
ça.
La bataille de Jeddah, l'audio drama. Mm-hmm. C'est vraiment, là, c'est dur d'être plus en continuité que ça. Là. Fait que,
ah oui, c'est
moins
la suite.
Beau travail pour l'aspect, là, justement, la collaboration de tout le monde.
Tu l'as fini, du coup?
Non, j'ai pas fini. Donc,
Ça,
je suis très, très peu Star Wars étant assez trop actif du côté de mes obligations professionnelles. Donc, excellent. Écoute, si je te demandais vite, qu'est-ce qu'il y a au menu pour les fans de Star Wars en direct ces temps-ci?
Ben, pas mal de choses très intéressantes. En plus, nous avons donc notre Star Wars en direct édition spéciale, le Jar Jar Quiz 2023, qui est le dernier podcast qui est sorti et qui est très sympathique, c'est très très drôle. En fait, c'est un quiz qui a été organisé par Odd et Karel, hein, de notre équipe de choc, ainsi que Céline et Lucille du podcast Geek Squadron, un excellent podcast Star Wars aussi que je vous conseille également, et qui étaient donc à la convention Génération Star Wars et Science Fiction de QC, et qui ont animé ce petit quiz comme ça, donc avec public. C'est vraiment très sympa, c'est très drôle, les questions sont très très sympas. Apparemment, d'après ce que dit Odd, donc les questions sont faites par Odd et un de nos Fred, et les questions sont excellentes, quoi. Donc je vous conseille vraiment pour une bonne tranche de rigolade. Ensuite, on a le diptyque donc Star Wars Jedi. Donc d'un côté, le jeu vidéo qui vient de sortir, donc la critique du jeu par JF et Julien, nos gamers de l'extrême. Et ensuite, la critique du bouquin attachée à ce jeu-là, donc Jedi Battle Scars, par nous-mêmes, la même équipe que ce soir-là. et qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est pour le podcast. Mais sur notre chaîne YouTube, en plus de ça, nous avons l'unboxing du jeu Star Wars Shatterpoint, faite par notre collaborateur JF, donc un jeu qui a été gracieusement offert par Asmodee Canada, et qui est disponible donc depuis le 2 juin 2023, si ça vous intéresse. C'est un super jeu, là, vraiment. Je suis pas encore dans la vidéo, mais avec les images, ça donne envie. C'est des jolies figurines.
Ouais, ben pour ceux qui seraient juste habitués au podcast, hein, les Star Wars en direct express, c'est pas pour rien que c'est juste sur YouTube. Là. Souvent, c'est très visuel et c'est très court, donc c'est pour ça que c'est pas mis en version podcast, mais on vous invite allez voir sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct.
C'est ça.
Voilà, donc écoute, on va passer à ce moment-là en hyperespace et on pourra attaquer notre album de Han Solo et Chewbacca tout de suite après.
Ok.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
De retour, donc, le Han Solo et Chewbacca, c'est le premier volume de deux. Hein. Au début, quand ça a été lancé, on s'attendait à une série ongoing, comme on dit, là, continue. Mais ce n'est qu'une mini-série, si on peut dire, là, c'est ça, en 10 numéros. Voilà, le premier album du côté de chez Panini, et c'est les 5 premiers numéros. Rapidement, côté spec, là, comme on dit... La traduction du titre, parce qu'en anglais, c'est The Crystal Run.
Yes.
En français, c'est une partie de loisir. Donc, je reste un peu dubitatif devant cela. À la limite, ça avait été une partie de plaisir. Là, c'est une partie de loisir.
Mais pour l'un ou l'autre, ben, je ne vois pas trop le lien avec ce qui se passe dans l'histoire, en fait. Mais bon, c'est pas grave.
Ah, ben, effectivement, Crystal Run, moi aussi, je me pensais qu'il y aurait un truc en cristal à un moment donné.
Ben oui.
Ça n'est pas plus le cas, mais là, on vient de spoiler la déception. Tout ça pour dire que voilà, sorti chez Panini Comics récemment, comics numéro 1 à 5, 160 pages à 21 €, là, pour ce qui est de l'Europe. La chronologie, c'est intéressant parce que contrairement à toutes les autres séries là, ongoing, on va dire, et surtout qui se croisent dans les événements là, avec Crimson Reign, etc., In the Empire, celle-ci ne se passe pas en même temps que les quatre autres. Et, les quatre autres, évidemment, se passent entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Celle-ci se passe en moins 8, donc on est entre le film Solo et ben, notre première apparition de Han Solo dans, sur Tatooine là, dans Un Nouvel Espoir. Fait que c'est ça, fait que c'est les... Comment dire, c'est le film Solo se terminait hein, qui s'en allait vers Tatooine rencontrer Jabba, là, ou en tout cas qui avait entendu que Jabba serait intéressé. Quoi que ce que je dis là, c'est peut-être pas dans le film, c'est peut-être dans la novélisation et dans l'album Panini aussi, là, le comics. Je crois que c'était ça, c'était comme une page supplémentaire qui se passait après le film. Eh bien, c'est ça. Là, on est dans des jobs, des contrats que Jabba donne à Han et Chewie. Scénario, on est avec Marc. On va massacrer un nom ici.
Mais non.
Marc Guggenheim. Guggenheim, quelque chose comme ça.
Et, comme les musées, comme les musées de Guggenheim, quoi.
Ah, mais ça n'a aucune idée. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Et du côté des dessins, on est avec David Messina. On y reviendra tout à l'heure. Et du côté des couleurs, on est avec Alex Sinclair. Et les albums. On a eu deux, mais en fait, 4 sur 5, là, c'est Phil Noto. Fidèle à son habitude, fait toujours un excellent travail. Là. Si je remets, par exemple, la couverture, c'était le numéro... Je ne sais plus lequel, mais bref.
Ah, alors, ouais. C'est Phil Noto, celle-là. Oui, c'est ça.
Moi, dans le fond, je suis vendu à Phil Noto. Hein. J'adore son style. Sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, surtout quand c'est tout l'album. Là, c'est juste les couvertures. Mais c'est ça, c'est tellement, comment dire, reconnu, entre guillemets, qu'il fait souvent aussi les couvertures de romans. Phil Noto, et c'est lui aussi qui avait fait la fameuse affiche qu'il y a derrière moi, qui était là, pour l'événement là, de la troisième vague de la première phase de la Haute République, voilà. La chute de l'étoile. Fait que bref, voilà. Est-ce que, s'il y avait des infos que tu voulais donner sur l'équipe?
Oui, alors déjà, il faut rappeler que c'est la troisième mini-série sur Han Solo, après les très bons Imperial Cadets de 2018-2019, par là, et la très bonne série Han Solo tout court de 2016.
Ouais, ouais. Plus l'adaptation du film, aussi.
Voilà, en plus de l'adaptation du film. Et du coup, j'ai dû regarder un petit peu les notes que j'avais mises à l'époque, parce que même si Imperial Cadets, j'avais bien aimé, je m'en rappelle, mais je t'avoue que la Solo de 2016, j'avais complètement zappé ce que c'était.
Ah ouais?
Ça commence à remonter, 2016. Et du coup, j'ai refeuilleté le comic juste avant l'émission, là, et j'avoue que c'était très très bien. Vraiment, la Han Solo de 2016, ouais, j'avais mis un bon...
Il y avait même, en France, il l'avait même ressorti en noir et blanc, et format, très 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 grand format, là, donc pour vraiment profiter des dessins à son maximum.
Ah ouais, c'est marrant que tu dises ça, parce que pareil, je me suis renseigné un peu sur... Je suis allé sur le site de Panini France, donc si vous êtes intéressé par ces plus vieux tomes, donc la Cadet Imperial est toujours dispo sur Panini, le site de Panini France. La Solo 2016, elle est épuisée, mais la Solo en noir et blanc, que tu mentionnes à l'instant, là, c'est marrant que tu en parles, elle est toujours dispo hein, au prix d'une vingtaine, 25 €, je crois. Donc si ça vous intéresse, comics en noir et blanc. Et les dessins sont magnifiques, vraiment. On parlera des dessins de ce tome-là plus tard, mais celle de 2016, j'avoue que les dessins, relisant le tome là tout à l'heure, c'est ouf.
Les auditeurs vont dire qu'on se répète, mais c'est le fameux album que George Lucas a acheté les planches d'origine du dessinateur.
Ah ouais? Ah, d'accord.
Donc le Han Solo de 2016. Là. Et il en avait déjà donné, pour l'anecdote, le dessinateur avait déjà commencé à donner des planches originales à des amis, tu sais, l'éditeur, tout ça. Donc il avait fallu qu'il rapatrie le tout,
d'accord,
pour les donner, en fait, les vendre à George Lucas qui les avait achetés tellement il était impressionné. Donc,
d'accord.
Sur l'aspect visuel, moi j'avais donné 90% là, à l'album en entier. Je vous, ouais. vous dis, au niveau en tout cas visuel, ça vaut vraiment la peine.
Ah oui, rien que visuellement. L'histoire était peut-être un peu plus anecdotique, ça parlait d'une espèce de course, mais ouais. C'était superbe. Niveau alien, il y avait le choix aussi, là. C'était vraiment des aliens de ouf, et les dessins magnifiques. Quoi. Moi j'avais mis en moins 85%, je crois, enfin, très très bon comics. Le cas d'Impérial, tu l'avais bien aimé, toi, ou...
Oui, ben, j'avais bien aimé. C'était un côté que d'Impérial, on était avant le film Solo. C'était vraiment le mm-hmm. Han Solo à l'académie. C'était aussi bien intéressant, c'était les fondations, on va dire, de, par exemple, le retour du personnage de Valance, le fameux...
C'est ça, ça rencontre
Cyborg, on va dire, là, qui est dans l'équipe des Bounty Hunter, là, la série Bounty mm-hmm. Hunter. C'est quand même une belle surprise. Il y avait un petit côté, là, vraiment, le Han Solo. Tu sais, quand on se dit, mais comment un personnage comme ça peut fitter dans la marine impériale de Star Wars, mais bon, voilà. Faut lire ce numéro-là pour le savoir.
Ouais, ouais.
Fois-ci, je pense qu'on sait ça, on est avec une équipe qui n'a pas une énorme expérience côté de Star Wars.
Et non, justement.
Le coloriste, Alex Sinclair, lui, on le voit souvent. Mais les deux autres, là, d'après ce que j'ai compris, c'est pas leur première présence dans Star Wars, mais c'était très, très limité, là, des one-shots, je crois, ici et là.
Ouais, c'est ça. Ben, si tu me permets, la Guggenheim, justement, donc rien à voir avec les musées, donc le fameux musée à New York, tout ça. Il y en a un à Bilbao, là, dans le sud-ouest, dans le sud-ouest de la France, j'allais dire, plutôt dans le nord-ouest de l'Espagne. Mmh. C'est des musées d'art moderne et tout. J'étais allé une fois, vu que j'habitais pas loin en France à l'époque, donc c'était plutôt cool comme musée, mais là, rien à voir. Donc là, c'est Mark Guggenheim, et comme tu dis, c'est un auteur extrêmement prolifique, mais pas chez Star Wars, en fait. Il a fait que le One Shot Revelation, là, que je te parlais juste avant,
ouais,
dans le WhatsApp. Et voilà, et ça, c'est son deuxième boulot sur Star Wars.
Non, mais je crois qu'il avait aussi sur, tu sais, les fameuses séries qu'on n'avait pas aimées, Malgus avait mis
dans oui.
Les Ères de la République, Ères de la Rébellion, etc.
Ouais, il a fait
Ici et là, peut-être un ou deux numéros.
Ouais, il a fait, République, quoi. Il a fait un truc sur la République. Et tu vois, moi, c'est marrant, moi, le Age of Resistance, moi, sur la post-logie, j'avais adoré ce bouquin, clairement.
Resistance, oui, effectivement, de mémoire, il me semble que c'était un peu meilleur que les deux autres. Mais c'était tous des one-shots, donc de un à l'autre, là, ça variait beaucoup. Mm-hmm. Celui sur Dooku, par exemple, j'avais adoré.
Ouais, voilà, ça dépendait vraiment de quel perso il traitait. Et donc, Guggenheim, le truc, c'est qu'il n'est pas. Donc, Star Wars, c'est pas le plus grand de sa carrière, parce que le gars est aussi scénariste de séries et de films. Et du coup, il a fait plein de séries, donc Law and Order, CSI Miami, Arrow. Donc, il a fait plein de scénarios de séries Carnival Row là, avec William Turner, Trollhunter avec Del Toro. Et au cinéma, par contre, bon, il est moins prolifique, mais il a fait le Percy Jackson, le premier film. Je sais pas si tu l'avais vu.
Je l'ai jamais vu.
Ouais, pareil. Et le fameux Green Lantern, là, avec le meilleur acteur du monde, là, qui est de Vancouver aussi. Ryan Reynolds, ça, qui a fait date.
ouais, c'est, effectivement. Mais et du côté du dessinateur, est-ce que tu avais des renseignements?
Ouais, bah, pareil, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait donc il a participé au crossover War of the Bounty Hunters, David Messina, là. Et voilà. Ah oui, il vient aider aussi pour la série régulière The High Republic, vite fait, là, pour un seul numéro. Mais voilà, après, c'est tout ce qu'il a fait. Star Wars, après, c'est que du Marvel, beaucoup de X-Men, Wolverine, Magneto, tout ça. Donc, c'est pas un débutant, mais Star Wars, un petit peu, quand même. Voilà.
Ah, excellent. Et, écoute, si je te demandais de nous en faire un court résumé, c'est quand même une histoire qui se résume assez vite.
Oui, assez vite. Ben ouais, c'est... déjà, c'est...
résumé, spoiler, là, dans les épisodes comics, mais je crois que...
On va spoiler... Donc écoutez pas si vous voulez lire le tome, lisez le tome et revenez pour écouter le résumé spoiler. Donc on a Han Solo et Chewbacca qui sont dépêchés par Jabba, tu le disais, hein, pour récupérer donc le MacGuffin de ce bouquin-là. C'est une urne contenant des cendres d'une certaine personne chère à Jabba the Hutt, donc, des mains d'un grand ponte du nom d'Augustus Graves, qui n'est autre que le leader de la CEC, la Corellian Engineering Corporation. Donc c'est une compagnie d'engineering, quoi, qui fabrique des vaisseaux, dont le Falcon. Voilà, c'est ça. Et donc il leur demande d'aller de s'allier le temps de la mission à Greedo, donc grand retour de Greedo dans cette histoire, ce qui n'enchante pas du moins du monde notre ami Han. Ils vont d'abord se rendre donc sur Corellia, donc la planète natale de Han, pour effectuer un casse sur le CEC, et qui ne se passera évidemment pas comme prévu. Han y rencontrera aussi une figure familière en la personne de son propre père, hein, rien que ça, et qui l'aidera dans sa tâche. Et après avoir fait chou blanc sur Corellia, Han, son père et Chewbacca abandonnent Greedo sur place, qui lui fait que des conneries pendant tout le tome. Vous verrez, il arrête pas de faire des bêtises, c'est assez drôle en fait.
Ouais. Il fait pas exprès là, mais ben, c'est pas comique dans le sens qu'on va pouffer de rire, là, mais on a l'impression d'une certaine incompétence quand même.
Ouais. Il passe un peu pour un abruti le Greedo. Et donc ils partent sur Antillion, où l'urne est censée avoir été vendue. Là, ils rencontreront la future archiviste de Kira, qui avant de se faire recruter par Kira et Quinsome Dawn, oui. Et après avoir été une érudite universitaire, hein, spécialiste des artefacts Jedi et Sith, elle est devenue vendeuse.
Je ne figurais pas, là, c'est celle avec des espèces de dreads, là, mais des dreads qui retroussent à... Et ouais. Mauve, à l'époque, plus jeune, c'était mauve, là, en vieillissant, ça vire au blanc, on va dire.
C'est ça, l'espèce de Tia Dalma, une espèce de vendeuse de bazar dans une ville un petit peu pauvre.
Fortement inspirée du premier concept qui avait été prévu pour Darth Maul, là, à l'époque.
Ah oui,
c'est vrai que tu loin, là, ça faisait penser à la petite fille dans le cercle, avec des cheveux, là, puis bon, peu importe.
C'est ça. Donc, elle qui revient dans ce tome-là, c'était plutôt cool comme petit clin d'œil. Donc Han enverra donc des Stormtroopers faire le sale boulot à sa place, ce qui lui permettra de récupérer donc la fameuse urne, avant qu'un autre perso n'intervienne, connu des lecteurs de comics et adoré par moi, mais bon ça. J'ai nommé le grand Black Crescenten, donc qui fait son grand retour.
J'aime mieux l'appeler cool. Christian Lenoir, je trouve que...
Christian
Lenoir, c'est plus facile à dire, déjà.
C'est ça. Ouais, c'est moins épique et c'est moins cool, mais effectivement, c'est plus facile à dire. Donc, le Christian qui va neutraliser donc Papa Solo, kidnapper Han pour le ramener au propriétaire originaire de l'urne, donc sur Corellia. Et Chewie, donc, qui va se lancer dans sa poursuite en compagnie du Papa. Et après s'être rendu sur la planète d'Augustus Graves, là, un gros duel au point contre Black Crescenten commence. Et Chewie va s'en sortir et va réussir à délivrer Han, qui pense retourner au Faucon, mais bam, le Faucon a disparu. Hein. C'est le papa qui vient de... Enfin, le présumé papa hein, qui vient de piquer le Faucon. Donc là, on a les anciens potes chasseurs de primes de Solo qui viennent le sauver d'une autre mauvaise posture face au Black Crescenten. Greedo aussi revient et tout. Ils veulent tous récupérer l'urne. Et ils reviennent sur la planète de l'archiviste, hein, la fameuse Antillion, pour récupérer l'urne, pour voir où est-ce que Papa Solo et le Faucon sont passés, mais personne n'est là, l'urne a disparu, Papa Solo a disparu, et donc le père de Solo essaie, lui, de son côté, de refourguer l'urne à l'Empire, mais une espèce de Marshall, ouais, super stylé, l'empêche de vendre cette urne-là. Donc là, le Marshal nous révèle que le père Solo n'est pas en fait le père Solo du tout, quoi. C'est juste un criminel qui s'est fait passer pour le père de Han, du nom de Corbus Tira. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu ce que c'était, Corbus Tira. C'est sa première apparition, il est créé pour ce tome-là. Il n'est jamais apparu auparavant.
Ça en prend des nouveaux de temps en temps.
C'est ça. Et donc là, grosse baston entre t'as le Marshal et sa team des forces de l'ordre, entre guillemets, et Solo et sa team de chasseurs de primes. Dans la baston générale, t'as Chewie qui arrive à faire évacuer Corbus Tira, donc le criminel, mais en se faisant, se fait malheureusement capturer par le Marshal, et clou du spectacle, Solo, lui, se fait tirer dessus à bout portant par Greedo. Voilà, et le tome finit sur ça, donc un petit cliffhanger comme on aime bien, et notamment du fait que Chewie, qui se retrouve donc en prison, emprisonné, fait face à une autre prisonnière du nom de Maz Kanata qui apparaît à la toute fin, la dernière page du tome et qui nous donne envie hein, de lire la suite, vraiment. Donc un très bon cliffhanger.
Cliffhanger, évidemment, on se doute bien qu'Han Solo n'est pas décédé et que Chewbacca va sortir de là d'une manière ou d'une autre.
C'est ça.
Mais excellent, merci. Écoute, si je te demandais d'enchaîner avec qu'est-ce que tu as passé, on va y aller peut-être scénario en premier et on parlera graphique après.
Ok, scénar, ça va aller vite fait. Hein. Moi, le scénar m'a beaucoup plu en fait. En fait, j'attendais rien de ce tome-là. Déjà, je me rappelle, on en avait parlé entre nous, mais dès qu'ils ont annoncé cette mini-série donc, qui est sortie depuis un an quand même en VO, je dirais, une bonne année par numéro. Déjà, on disait, oh là là, encore une série Han Solo. Alors, déjà, on était, c'était un peu la période où on en avait trop de Star Wars en comics, il y avait trop de diffus qui sortaient, et puis bam, ils nous annoncent une mini-série Han Solo et Chewbacca, on dit oh là là, encore une, ce sera la troisième, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter et tout, donc je m'attendais vraiment à rien. Et ouais, bizarrement, moi le scénario m'a beaucoup plu, le fait de se placer juste avant l'épisode 4, moi je trouve que c'est une très bonne idée, du coup ça change un petit peu, parce que c'est vrai que là on est entre l'épisode 5 et 6 depuis 3 ans, là. et ça commence à saouler un petit peu. Donc changer d'époque, ça faisait plaisir. Et moi, au début, ça commence direct par le classique Han Solo et Chewbacca qui vont aller voir Jabba the Hutt. Et moi, je pensais vraiment que, comme ça se passait vraiment juste avant le film, que c'était en fait la fameuse mission que Solo foire et justifie à Jabba, tu sais, dans le hangar, dans le film, en fait.
Ouais.
Je pensais vraiment que ça allait être ça. Et du coup, le fait qu'il y ait Greedo aussi, je dis, ah, c'est cool et tout, on va voir ça. En fait, je pense pas que ça soit ça. Je sais pas, on verra avec le tome 2 où ça s'en va. Mais je pense que c'est encore un peu auparavant. Hein. Mais ouais, je trouve que Guggenheim, il écrit plutôt bien, moi, le perso de Han Solo. Je reconnais bien. Je trouve que sa personnalité ressemble beaucoup à. Et son comportement à celui des films. Donc,
ouais, pour ça, il n'y a pas de problème. La personnalisation de Han Solo, là, effectivement. Ceux qui aiment le Han Solo traditionnel, de la trilogie originale, ne seront vraiment pas déçus. On est...
Ouais.
La personnalisation est parfaite, donc c'est ce que effectivement tout le monde a mentionné sur cet album-là, qui, comme tu dis, je pense qu'il a surpris beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens avaient le même réflexe que tu as dit. Qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir nous inventer comme histoire sur Han Solo? Ça finit par être répétitif, surtout si on a pris les légendes à l'époque. Mais ouais, assez d'accord avec toi, c'est... une belle surprise. Moi, en tout cas, je me suis surpris là, à apprécier la série dès le début. On a assez de nouveaux personnages pour que ça ne soit pas que du Han et Chewie et Princesse Leia et Luke, etc. Là, bon, évidemment, c'est avant là, les films. Mais
pas de Leia,
que Han et Chewie non plus. On a la relation avec Greedo, on a un petit aperçu avec Jabba, un aperçu avec d'autres chasseurs de primes qu'on va retrouver dans la série. Bounty Hunters, bon, personnellement, je les aime pas du tout, mais...
oui, mais là, ils sont moins envahissants que dans la série Bounty Hunters, où ils sont tout le temps là, et ils sont vraiment pas intéressants. Là, c'est vraiment focus quand même sur Solo, Chewbacca, Greedo et son père, du coup, c'est...
Et non seulement la personnalisation du personnage est parfaitement réussie, mais en plus, les situations qui se passent, et les situations dans lesquelles se retrouve Han, puis comment il... Tu sais, tout ça, on y croit. C'est vraiment du Han Solo, là, mais à 100%. Donc là-dessus, c'est vraiment une réussite, à mon avis.
C'est carrément. Tu parlais aussi de Greedo. Ben justement, on voit dans le film qu'ils se connaissent, qu'il y a un passif entre eux dans leur fameux duel dans la cantina. Et là, justement, le fait de lui associer Greedo, ben, tu explores un petit peu, tu développes un petit peu leur relation et tu comprends vraiment leur antagonisme qu'ils ont dans le film. Quoi. Donc ça, c'est assez sympa.
Ouais, j'aurais quand même apprécié un Greedo un petit peu plus compétent. Hein. Parce qu'en plus, on en a eu un c'était un one-shot. Dans quelle série? C'était dans celle des War of the Bounty Hunters. Il y en avait un il y en avait un sur Greedo qui était pas mauvais. Là. C'était à l'époque plus de la République. C'était longtemps en arrière. Là, puis il essayait de mettre la main sur un sabre laser. Quelque chose comme ça. C'est ça, on avait un Greedo un peu plus compétent. Là, t'as raison, c'est un peu le dindon de la farce. Là, c'est un peu le... Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais, comme tu dis, la relation entre les deux, bon, ben, c'est ça, Han Solo l'abandonne, comme t'as dit, sur une planète. Ils viennent... Mais tu sais, comme tu disais dans ton résumé, ils viennent le secourir, mais pas pour le secourir. Eux, ils viennent le capturer. Donc, ça donne qu'il secourt Han Solo, mais en le capturant.
Et oui,
ses anciens amis, le chasseur de primes,
ses amis entre guillemets.
Tout le monde court après, comme tu as dit, le mec de film, la fameuse urne mystérieuse qu'on ne sait pas trop ça va être quoi. Mais il y a quand même un prix impressionnant. Là. Jabba est prêt à payer cher pour le récupérer.
Ça, ça explore également, encore une fois, j'ai envie de dire, vu qu'on a vu le film Solo tous. Mais là, ça explore un pan de l'histoire de Solo qu'on n'avait encore jamais vu, hein, le fait d'avoir son père. Évidemment, je ne sais pas si toi, tu te doutais du fait que ça ne soit pas vraiment son père. Moi, j'avais un petit doute dès le départ, hein, je t'avoue.
C'est normal, vu l'univers dans lequel il évolue, on se doute que c'est peut-être une arnaque. Lui-même s'en doute et il y a certaines répliques qui dit des fois qu'on sent que même si en apparence il fait semblant de ne pas avoir de doute, on comprend qu'il doute encore. L'arnaqueur, c'est quand même donné là, pour vraiment savoir. Pour le père de Han. Clairement, il avait fait ses recherches, on va dire ça comme ça.
Quand même, parce que moi, il y a deux trucs, deux points. Ah, désolé de te couper. Deux petits points sur ça, c'est justement quand tu vois des flashbacks. Donc, on voit vraiment de visu des flashbacks où tu vois un petit Han Solo de 12-13 ans avec son père sur le balcon, là, sur Corellia, en train de regarder les usines de fabrication de vaisseaux. Là. Et tu vois que le visage du père est masqué. Enfin, il est tout le temps dans la pénombre. Tu ne vois jamais vraiment. Ouais. Donc là, je me suis dit, ah, d'accord, il nous cache le visage, donc il y a sûrement quelque chose de fichy, tu vois, quelque chose de bizarre. Mais je me suis surpris à douter plus tard quand, en fait, le fameux criminel, là, le faux papa, lui sort des répliques que son vrai père lui aurait sorties à l'époque. Mm-hmm. Du coup, comme tu dis, il a bien fait ses recherches, je ne sais pas comment il s'est débrouillé à réussir à trouver les moments de la vie d'Han Solo.
Il a simulé le fait qu'il avait perdu un œil. On s'aperçoit plus tard que c'était, on va dire, du maquillage ou quelque chose comme ça, mais bref.
C'est ça.
Plus tard, il y a ses deux yeux fonctionnels. Mm-hmm. Donc,
mais j'ai presque cru. J'ai presque cru. Hein,
premier numéro, tu te dis, parce que ça se termine là-dessus, hein, retrouvaille Papa Fiston. Donc, le premier numéro, tu te dis, bon, OK, il y a peut-être une arnaque. Mais je pense que c'est juste quoi, à la fin du quatrième ou quelque chose. En tout cas, ça prend quelques numéros avant qu'on comprenne le poteau rôle.
Quand justement le marshal le capture et donc lui il sait qui c'est, donc il le démaquille, il lui enlève tout son maquillage, sa fausse barbe, son faux œil, et puis là tu lui dis voilà, c'est pas toi, t'es le fameux criminel, machin. Mais il y a aussi un moment où Han Solo, j'avais l'impression qu'il allait faire, c'est le coup classique dans des situations comme ça que tu vois un peu partout dans des films, quoi, où le gars qui pense être trompé va sortir une fausse anecdote du passé. Donc là, c'est les fameux dés, donc petite easter egg très sympa, donc les fameux dés de Solo qu'on voit vite dans l'épisode 8, tout ça, qu'on comprenait pas très bien. Moi j'ai toujours eu un problème avec ces dés. Moi, je pensais vraiment que c'était une espèce de gris-gris que tu voyais dans la trilogie originale, mais en fait pas vraiment, quoi. Ou alors dans une scène coupée, je crois que c'est ça l'histoire.
Non, on les voyait, mais tu sais, on s'entend que c'est pas quand on les écoutait sur VHS, sur nos vieilles télé cathodiques, qu'on pouvait l'apercevoir, là, mais en 4K, il me semble qu'on les entrevoit très brièvement. Je crois que c'est dans le Retour du Jedi, là, quand c'est Lando qui pilote ou quelque chose comme ça.
Ah, ok. Et dans le Légende, si je me rappelle bien, c'était pas les fameux dés qui lui avaient fait gagner le faucon? C'est pas une histoire comme ça?
Ouais, il me semble que dans la Légende, c'était ça, et ça a été changé un peu avec... parce que dans Solo, dans le film, ils les ont déjà dès le départ.
C'est ça. Donc, ça ne peut rien avoir. C'est dommage, ça. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit les fameux dés qui lui fassent gagner le coup. Bon, bref. Donc, là, ces dés sont là. Et justement, il mentionne ces dés à son faux papa, mais qui pensait être son vrai papa. Et je pensais que là, justement, il allait le piéger. Et non, c'est pas le cas. Donc,
c'est ça. Sinon, sur on va dire, la grande histoire, ben, dans le fond, c'est un casse, là, aussi, sur. Tu l'as dit tout à l'heure, sur
Corellia.
Non, au début, c'est Corellia, mais plus tard, c'est.
Ah, pardon, oui. Après, ils vont sur le. D'accord. Oui, c'est
avec, avec Greedo puis tout ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est du Han Solo tout craché. Là, et de la débrouillardise. Ils sont toujours pris au piège, mais ils s'en sortent, etc. Fait qu'on est tout à fait. Donc évidemment, quelqu'un qui n'est pas capable de sentir le personnage va peut-être pas aimer. Quelqu'un qui adore le personnage, à mon avis, aurait intérêt à le lire, parce que c'est ça, on croirait écouter un film ou une série là, sur lui. Je pense par exemple à Sébastien Galano. C'est... comme ça, peut-être de jeter un œil à cette série-là. Fait que c'est ça au niveau scénario. Je ne sais pas si t'avais-tu
l'histoire. Ben, moi, un autre point fort du truc, c'est du tome, c'est la présence de l'archiviste de Kira. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, en fait. En fait, il utilise pas mal d'autres comics. En fait. Ouais, voilà, et de Kira, donc tu vois vraiment. En plus, on sort de Crimson Dragon.
Oui, on sait que c'est elle. Anne, il la reconnaît pas parce qu'elle est de dos.
Voilà, exactement.
Il la voit aux jumelles, mais c'est ça. Nous, on comprend que c'est Kira.
C'est ça.
Quelques années avant les événements qu'on connaîtra dans les Crimson, peu importe lequel. Là.
Oui, voilà, et c'est un passage qu'on avait vu du point de vue de l'archiviste et de Kira dans Crimson Rain, dans le passé de l'archiviste. On voit comment, en fait, elle est tombée d'être une grande universitaire à vendeuse dans un bazar à une des lieutenants de Kira. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est Han Solo qui a envoyé les Stormtroopers. Parce que cette scène-là, tu la voyais dans Crimson Dawn. Donc, tu as les Stormtroopers qui vont venir la bully. Et c'est Kira qui va venir la sauver en butant les Stormtroopers et en l'embauchant sur place. Et en fait, tu te rends compte que c'est Han Solo qui indirectement a envoyé les Stormtroopers bully l'archiviste et qui est sauvé par Kira, en fait, tu vois. Donc ça, c'était vachement intéressant. Ça,
peut sembler une référence un peu lointaine, tout ça, mais il faut comprendre qu'en anglais, ces numéros-là sortaient tous en même temps. Donc c'était en parallèle, ils sortaient au même moment. Mais ça reste des petites références plaisantes.
Oui.
Donc, bonne, c'est comme pour n'importe quel easter egg, quand tu as déjà lu l'autre histoire, ben effectivement, tu fais bien. Mais on s'entend, ça change absolument rien à l'histoire.
Non, 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 mais le fait de savoir que c'est Han Solo, bon, c'était rigolo. Et le fait de savoir que lui ne sait pas que c'est Kira, alors que nous le savons, donc ça c'était très très bien. Non, on a des petites connexions entre œuvres, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est pour ça qu'on lit les comics Star Wars, t'as l'univers global et là les petites connexions, donc c'est très très cool. Et une autre connexion évidemment, ben, tu l'auras remarqué, c'est Black Chrysanthemum là qui fait son retour et c'est tellement. Moi j'adore, j'adore. En plus là, il revient à la fin numéro 3, je crois, sur la splash page de fin, quoi. Donc il fait en dehors du numéro 3, et quand tu lisais numéro par numéro, tu étais là, oh là, trop bien. Il y a Black Chrysanthemum qui revient, et je suis pas déçu de son apparition dans le comics, quoi. Donc très très
bien. Ouais, bah, encore une fois, en fait, il sera pas vaincu de façon loyale, on va dire, par Chewbacca. C'est avec un détonateur thermique lancé par. Donc une grenade lancée par. Par Chewbacca, là, et Chewbacca et Han Solo vont s'enfuir, tout ça. Mais voilà, moi, c'est un personnage que j'ai appris à aimer, là, même s'il est très comique. C'est fait très un peu comme Dr. Aphra ou d'autres personnages que tu te dis, ouais, en vrai, je sais pas. Mais dans la série Boba Fett, ça avait été une très belle surprise dans votre
oui. Donc, c'était pas le pire de la série, hein, on s'en rappelle.
Non, non, exactement, tout à fait. On reviendra pas sur la série. Mais ouais.
Moi, c'est vraiment son apparition dans la série, ça reste encore mémorable. Quoi. C'est un moment préféré mais de la série, ouais, mais de tout Star Wars. Quoi.
Très bien.
Vraiment. Ah ouais, iconisé, là, quand il sort, là, comme ça, avec la fumée, tout ça, c'était vraiment. Et puis le costume était super bien fait. Non, vraiment, un super perso que j'adore. Oui. Et j'étais très content de retrouver ici. Quoi. Et ça fait sens, quoi, parce que si tu veux avoir un ennemi à la hauteur de Chewie, ben, quoi de mieux qu'un autre Wookiee, quoi.
Mais tu vois, on n'a pas mentionné le vaisseau de l'autre équipe de chasseurs de primes, c'est aussi un YT là, 1300, là, donc
un
faucon, mais un peu très légèrement différent, avec un cockpit au milieu et juste deux réacteurs au lieu d'être un grand bandeau de réacteurs à l'arrière.
Ouais.
C'est des références, certains disent ça manque peut-être un peu d'originalité, parce qu'on a vu ça quand même assez souvent là, maintenant. Et il ressemble quand même beaucoup au faucon. Il y a aussi les deux mandibules au milieu, là, en avant. Donc, mais c'est du chipotage.
Mais ça fait sens parce qu'il y a un moment où Solo prend le contrôle de ce vaisseau-là. Et justement, il montre à quel point c'est un excellent pilote parce qu'il arrive à sortir d'une situation un peu désastreuse. Quoi. Il prouve aux chasseurs de primes que c'est ouais, un pilote hors pair. Et du coup, bon, le fait que ce soit le même vaisseau que le sien, ça peut peut-être l'aider un petit peu, je sais pas. Mais ouais, ça faisait sens. On va devoir un autre faucon.
Ben, excellent. Ben, justement, si on passe, parce que là, on parlait limite de graphisme ou de.
Yes.
Si on parlait dessin, dans le fond, c'est comment il s'appelait, David Messina.
Yes.
Et au dessin des cinq numéros, donc déjà, on peut le souligner. Et c'est lui qui fait aussi les cinq suivants, là, donc la mini-série de 10 numéros au complet. C'est ça, on est rendu qu'il faut mentionner notre appréciation quand c'est le cas, hein, parce que quand c'est pas le cas, on regarde. Justement, quand il y a d'un numéro à l'autre, ou même des fois, en plein numéro, on a plusieurs dessinateurs, ça c'est vraiment, là, tu vois le manque de sérieux, de rigueur chez Marvel. Mais là, dans le fond, c'est la même équipe, même auteur, même graphiste, même coloriste, etc. Il y a juste la première couverture qui est différente des autres, puis c'est pas mal tout. Là. Donc, chapeau. Et personnellement, je ne sais pas ce que tu vas en penser, moi, j'ai beaucoup aimé le style de David Messina. Peut-être que ça ne plaira pas à tous, mais même au niveau... tu sais, des fois, il y a des dessinateurs que c'est plus au niveau les visages, tout ça. Et c'est des dessinateurs que leur grande spécialité, ça va être plus l'aspect mécanique, les vaisseaux, les armes, des choses comme ça. Exactement. Là, je dirais que tout est réussi. Vraiment, là. Et même des fois, on disait, tantôt, on parlait d'Han Solo au niveau de sa personnalisation dans l'histoire, là, dans ses réactions, tout ça, c'est très bien réussi. Et dans les dessins aussi, vraiment, on voit les faciès, les petits mouvements de sourcils, les yeux. Les visages de Solo, là, c'est très, très bien réussi. Là.
Les yeux, la bouche, les petites mimiques de Harrison Ford, ouais, complètement.
Puis, évidemment, tout le reste aussi, là, tu sais, Chewbacca, les vaisseaux et compagnie. Peut-être, j'ai remarqué peut-être des fois, mais ça, ça peut être des raccourcis par manque de temps, un petit côté récupération, le copier-coller de...
Oui.
Par exemple, le frère jumeau du Faucon, de l'autre vaisseau, on le voit à deux moments, je pense que c'est deux numéros différents, mais on le voit sous exactement le même angle. Tu te dis, bon, OK, même chose, une scène là, qui se sauve, tu as l'impression de revoir la même scène. Mais c'est ça, c'est du chipotage un peu, là.
C'est marrant parce que justement, vu que tu parles de ça, je jump in là, il y a justement un passage où tu as un genre de Mexican standoff, ou même pas, non, c'est juste la chasseuse de prime qui braque solo, et tu as deux cases, mais là d'affilée, où tu as juste le dialogue qui change, mais c'est exactement les deux mêmes cases, je sais plus dans quel numéro c'est. Ouais. Et oui, donc
des fois, c'est fait exprès là, pour montrer un seul détail qui change, là, mais. Voilà. Mais non, c'est ça. Puis moi, c'est puis le duo avec Alex Sinclair au niveau couleur, c'était parfait. Moi, vraiment. Et c'est très varié. Hein. C'est très coloré quand même quand il le faut, parce qu'il y a certaines planètes là. Comment que c'était Atolon, la planète avec l'archiviste là, j'arrive jamais à
Son nom.
Mais où est-ce que là, on est presque dans un Tatooine là. C'était quand même sale et désertique un peu. Évidemment, on a du Tatooine, mais on a du Corellia, on a du Osnian Prime, où est-ce qu'évidemment, c'est très urbain, très coloré, les néons, des choses comme ça. Non, c'est ça. Fait que vraiment, là, visuellement, tu sais, c'est ça, on est sur plein de planètes différentes. À un moment donné, ils vont être aussi dans des plus plaines verdoyantes, là, des grandes herbes longues, tout ça. Là, fait que c'est hyper varié. Fait que ça fait quand même du bien. Fait que non, c'est ça, chapeau au travail de cette équipe-là. J'espère justement qu'ils vont retravailler ensemble parce que ça, c'est un très bon match, on va dire ça.
Oui. Ah oui, je suis plutôt de ton avis aussi. Alors c'était Antillion, la fameuse planète de l'archiviste.
Antillion.
Voilà. Mais oui, bah, c'est à... oui, complètement. Bah, écoute, je vais te rejoindre dans quasiment tous les points que tu as mentionnés. Très coloré. C'est vrai qu'on se rappelle donc la série de 2016, Han Solo, était beaucoup plus sombre, hein, beaucoup plus dark, ouais. Beaucoup plus réaliste aussi dans ses dessins, peut-être. Là, j'arrive quand même à trouver le côté comic book un petit peu plus cartoon,
ouais,
on va dire.
Ouais, exact. Mais malgré tout, on pourrait croire, tu sais, parce que des fois, le cartoon, évidemment, après ça, les réactions, tu sais, les mouvements de muscles du visage, tout ça, dans le cartoon, c'est pas évident. Mais non, c'est vraiment, là, quand il y a besoin de détails, les détails sont là. De plus loin, évidemment, on est dans le plus simpliste un peu. Mais tu sais, il y a des décors, il y a pas trop de, tu sais, parce que des fois effectivement le décor est complètement blanc là pour sauver,
oui, derrière,
sauver de l'énergie, ouais. Aussi ou mettre l'emphase sur des personnages ou une action. Mais non, ouais, là c'est vraiment personnellement ça va être dans mes belles réussites là, dans mes dessinateurs que j'espère revoir.
Messina. Ouais ben oui après pareil, tu disais les vaisseaux sont super bien. Il y a des splash pages, là, des doubles pages magnifiques, là où justement tu as le vaisseau qui arrive. Enfin, le faucon est superment dessiné, hein, tous les vaisseaux, toutes les.
Ouais.
Ça, c'était super, super beau. Moi, j'ai peut-être un. Allez, pour critiquer Histoire 2, c'est vraiment. Mais c'est Chewbacca. Mais Chewbacca, c'est un peu comme certains personnages, comme ça, comme Yoda, tu vois. C'est vraiment des personnages qui doivent être très, très difficiles à dessiner, notamment au niveau de la fourrure.
Des choses comme ça, là.
Mais la proportion, encore, je trouve que ça va. C'est plus niveau texture de la fourrure, en fait. Donc parfois, effectivement, alors pas toujours. Hein, parfois, il y a des détails et tout, mais d'autres fois, c'est comme si, tu sais, il était tout mouillé, quoi. Enfin, t'as l'impression que la texture, elle est vraiment huileuse, quoi. Enfin, c'est vraiment.
Mais
ça gêne pas. Hein, c'est vraiment. Ça gêne pas
mais
vraiment.
On a un Christian Lenoir, quand même très très bien dessiné.
Oui, Christian est très bien dessiné. Et je sais pas, parce que est-ce que t'as le numéro Live Day à la fin de ce tome-là en France? Parce que je sais qu'en VO, nous, on a le Live Day en bonus.
C'est possible, parce que moi, je l'ai pas encore reçu, là, il est commandé. Ça expliquerait peut-être le prix un peu plus élevé là, qu'un numéro de 5 et le nombre de pages. Fait que c'est très possible, mais il n'était pas listé, il me semble, sur le site de Panini.
Parce que je vais checker entre temps, parce que justement, ben, en VO, donc à la fin, tu as ce tome bonus du Live Day, où là, tu as 3-4 histoires, comme tu disais, avec plusieurs dessinateurs, et comme c'est centré sur Hancho et Chewbacca, tu vois les différences de talent, entre guillemets, quoi, ou de style, sur Chewbacca. Tu as des Chewbacca, mais magnifiquement dessinés, où tu vois les poils sont vraiment ultra détaillés, bien plus que celui de Messina. Et par contre, tu as des Chewbacca de. Il y a Georges Gentil, hein, notre Némésis, quoi, qu'on répète à chaque fois que c'est une grosse merde, le gars. Il s'est pas dessiné et là son Chewbacca est affreusement dessiné, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, là, c'est là qu'on voit la différence entre le Messina. Je trouve que ça va, hein, vraiment, ça jure pas, quoi. C'est vraiment plutôt sympa.
Il y a sûrement des gens qui vont moins aimer.
Ben voilà, moi je me demande si Loïc, par exemple, qui est très picky au niveau des dessins, si ça va le titiller. Là, tu vois, moi je suis quasiment sûr que ça va le titiller, le Chewbacca, du moins. Le Han Solo peut-être pas. Chewbacca peut-être. Après, il y a plein de designs aussi, je trouve, de personnages inédits.
Mais tu sais, le Grino est bien réussi aussi.
Oui, voilà. Avec tous les aliens, ouais.
De se planter, le Jabba.
Ouais, Jabba est super.
On a Bib Fortuna à quelques moments aussi. Y a le fameux Marshall, là, qui est un
voilà, genre,
policier chasseur de primes. Là.
Bon. Exactement. Voilà, ben justement, je vais noter ça.
Bon, il est très stylé, justement.
Oui, voilà, il est très stylé. Le design est très cool, ouais, de Buck Vankto, il s'appelle. Le Marshall Buck. Et il y a une espèce d'alien, ou justement, d'espèce de... Ouais, d'androïde ou de robot au tout début qui a des espèces de tubes au niveau du crâne là. Enfin, c'était très
très
stylé.
Original. Je sais pas si c'est si ça a été pris sur un design qu'on a déjà vu ailleurs, ça me disait rien.
Non, ça me disait rien non plus, ouais. Donc ouais, des espèces de tuyaux au niveau des yeux là, je crois que c'est un membre de la garde du CIC, un truc comme ça. Et les designs très très cool, très très bien dessinés. Donc ouais, niveau dessin, il n'y a rien à dire.
Bon, il va falloir attendre un autre épisode pour se chicaner, Jean, parce qu'on est pas mal d'accord, je crois. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux notes?
Oui, vite fait, il y avait quoi d'autre là? Moi, j'aime. Voilà, le fait qu'en fait, tu vois, ça s'appelle Han Solo et Chewbacca. Et moi, je trouve ça cool quand même que Chewbacca, au début, je me disais, tu lis les deux. Même trois premiers numéros, je me dis, ouais, mais Chewbacca, il reste encore et toujours le sidekick de Han Solo, et c'est plus focus, l'histoire est plus focus sur Han Solo et ça, son enfance, son père, tout ça. On retourne sur Corellia, donc évidemment, t'as re des clins d'œil, Kira, le gros ver blanc, là, t'as tout son passé avec la Cilicie aussi, donc t'as tout ça. T'as même un clin d'œil sur le shot qu'il a mis à Beckett, justement, donc c'est rigolo.
Ouais. Ouais, il y a quelques flashbacks, hein, mais les gens qui détestent le côté flashback, inquiétez-vous pas, c'est pas des pleines pages, là, c'est vraiment une case.
Oui, voilà.
Ça gobe pas vraiment d'espace.
Voilà, donc ça c'était très bon en Han Solo, et je me dis, ils ont mis Chewbacca. Et justement, à partir du numéro 4, où Han Solo fait plus partie de la picture, là, c'est plus Chewbacca qui prend le relais. Et ça m'a fait plaisir quoi, de voir un petit peu Chewbacca dans le rôle-titre. Et il n'a pas volé son nom dans le titre du comics. Quoi. Du coup, c'est lui qui se bat contre...
Et puis la série n'est pas terminée aussi là, au numéro 5. Il faut comprendre que, comme tu disais tantôt, ça se termine. Han Solo s'est fait tirer dessus. Il est capturé par son ancienne équipe de chasseurs de primes. Et Chewbacca, lui, est emprisonné. On apprend aux côtés de Maz Kanata. Donc les deux, effectivement, vont se retrouver séparés et... on verra aussi, encore une fois, qui vient au secours de qui, et tout ça. Là. Mais ouais, t'as raison, effectivement, c'est pas qu'une série Han Solo. C'est toujours difficile, hein, pour... tu sais, on parle d'un personnage qui parle pas. Donc, et la seule fois qu'ils se sont essayés, là, il y avait déjà eu des versions légendes, mais dans le canon, il y a eu une BD Chewbacca, et ça a pas du tout fonctionné. Vraiment.
Elle était pas top, non. Elle était pas super. Ouais,
c'était joli. Si vous aimez Phil Noto, c'est lui qui avait fait l'album au complet. Donc, c'était joli, mais même pendant longtemps, je crois qu'il était en rupture de stock du côté de Panini. Je sais même pas s'ils l'ont reproduit. Là, les gens qui ne l'ont pas dans leur collection, ça peut être un objet rare. Mais c'est un personnage qui parle pas. C'est ça, il peut agir. Il peut, comme sidekick, c'est très. Parce que dans le fond, ça permet aussi d'exprimer ce que le personnage a dans la tête sans avoir des petites bulles là, de pensée comme on avait à l'époque là, dans d'autres BD. Alors que là, c'est Han qui lui répond. Donc on comprend ce que Chewbacca dit à cause des réponses que Han lui fait. Ou d'autres personnages, quand c'est Luke ou Leia, peu importe. Mais ouais, c'est ça. C'est pas... pour un scénariste, j'ai l'impression que ça doit pas être évident. Parce qu'à l'écran, à la limite, tu peux faire des choses spectaculaires, mais c'est ça, quand il est censé, dans un médium où il y a, par exemple, un roman, ou tu sais, quand c'est du dialogue beaucoup, c'est ça. Personnage qui parle pas, pour rappel, c'est ça, je crois que c'est dans une des BD des légendes, Chewbacca, c'était traduit. T'sais, on avait ses paroles traduites. Alors que dans la BD de Marvel de 2015, je crois, 2016-2015, c'était pas traduit, là, c'était que des C'est sûr, pour le scénariste, c'est pas facile. Là.
Effectivement, un peu comme Milou dans les Tintins, où t'as les bulles de pensée de... Si ça vous intéresse, là, je viens de checker. Donc, effectivement, le Live Day n'est pas inclus dans le tome. Mais si vous voulez, Chewbacca, justement, le comic dont tu parles, dessiné par Phil Noto,
il est dispo. Je suis pas certain du tout de la chose. Genre, il n'est pas listé sur le site de Panini.
Non, il n'est pas listé.
Le nombre de pages fait que c'est beaucoup de pages pour 5 numéros.
Ah, donc peut-être qu'il
donc,
y est.
Je serais vraiment pas surpris qu'il soit dedans.
OK.
Ouais. C'est 160 pages, alors que d'habitude, un 5 numéros, il me semble que c'est 112 pages.
Ah,
fait que ça fait une gros, quand même un gros écart. Et le prix aussi, là, à 21 € versus, habituellement, ça va être plus un 19 € en ce moment, là, un 5 numéros. Donc, okay. Je sais pas. Dans une prochaine émission, je vous le montrerai, là, j'aurai reçu ma commande.
Ouais, là, je double-check sur Amazon. Parfois, ils te mettent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si là, ils le mettront.
Ouais, mais si déjà sur le site de Panini, ils ne l'ont pas écrit, probablement non. Que partout ailleurs, ça va être la même chose.
Ah, peut-être pas. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par ce one-shot Chewbacca, il est toujours dispo sur le site de Panini à 18 balles. Mais ce qui est cool, c'est ils ont fait une... Bon, par contre, il n'est pas ouf. Hein, tu l'as dit, c'est pas la meilleure des BD Star Wars. Mais si ça vous intéresse, à petit prix, tu sais, Panini, ils ont sorti récemment une espèce de petite collection, là, l'équilibre dans la force, ça s'appelle, où ils ont ressorti, t'as du Maul, si je me rappelle bien, t'as du Dark Vador t'as le Chewbacca qui est sorti aussi à petit prix, à 7 balles.
Ouais, dans le fond, c'est ça, là, c'est évidemment, en termes de quantité-prix, c'est imbattable, là, on s'entend, là, parce que justement, c'est des vieux numéros d'il y a plusieurs années. Donc, le temps passe vite. Hein. On parle déjà de 2015-2016, le temps que ça soit publié en France. Donc, mais effectivement, ceux qui n'auraient aucun album, ça peut être des bons parce que ça contient beaucoup et à pas cher.
Déjà, à 7 balles, ouais, ça vaudrait le coup. Ouais. Un petit Chewbacca, histoire de se dire. Mais prenez plutôt ce Han Solo et Chewbacca, là. C'est vraiment
super série, ça, là. Ouais. Fait que si je te demandais, Jean, sur 20, tu donnerais quelle note, tu le placerais où par rapport, par exemple, à l'ancienne, à la série Han Solo, là? C'est quoi, dans le vol du dragon, le vol de quelque chose?
La série 2016, ouais. Écoute, j'avais mis un 17 pour la première Han Solo, et apparemment j'avais mis un 15 pour le Imperial Cadet, mais en fait, l'Imperial Cadet, ce qui m'avait un peu dérangé, alors c'est cool, t'apprenais un peu tout l'or autour de Solo à l'Imperial Academy, mais en fait, le dessin, ils avaient calqué le trait de Han Solo sur Ehrenreich, là, plutôt que Harrison Ford. Et moi, ça reste un des... C'est très, très bête, hein, parce que l'acteur en soi, il n'est pas mauvais, mais ça reste... Han Solo, ça reste Harrison Ford, quoi, et personne d'autre, du coup. C'est très, très con. Hein,
comme ça, c'est un peu un accompagnement du film. La même chose avec le Lando de l'époque.
Ouais, bizarrement, Lando, ça passe mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être que l'acteur est...
Est-ce que t'as apprécié le personnage?
Peut-être. Là, j'ai apprécié l'acteur.
Acteur, humoriste, chanteur. Là,
ouais. Ah, j'adore. Chalish, j'adore. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Mais bon, j'ai rien contre Ehrenreich. Mais j'avais mis un petit 15, l'histoire était sympa et tout. Là, je veux dire, j'ai vachement aimé. Très bonne aventure, très agréable à lire. J'ai pas vu le temps passer. Ça se dévore en deux. Le dessin, on l'a dit, un peu cartoony, très très cool. Le design stylé, machin. Les caméos font plaisir. Black Crescentan, The Best. L'archiviste, très cool. Maskanata, c'est ça. Moi, c'est un perso que j'adore aussi dans la postologie. Donc là, en cliff de fin, c'est génial. Le coup de papa Solo, moi, ça m'a agréablement surpris. En plus, ça fait pas comme le film Solo, justement. Où le film Solo, il t'explique qu'en deux semaines, il a eu son blaster, son faucon, son machin, son truc. Il a tout eu en deux semaines. Là, c'est un peu comme Pirates des Caraïbes aussi. Hein. Je reviens toujours à cette saga, mais là où t'as dans le cinquième film, là, qui... Ils t'apprennent, en 5 minutes, le gars, il a eu tout. Enfin bref, ça j'aime pas ça. Là, tu vois, c'est juste distillé gentiment. C'est bien fait. T'as juste un peu des passages vite fait. En plus, les flashbacks sur l'enfance de Solo, c'est vraiment très court, hein, sur son père, tout ça. C'est plutôt bien fait. Le fait que Chewbacca soit dans le rôle titre, moi, ça m'a. C'est très con, mais c'est pareil, je trouve ça sympa. Donc, moi, je conseillerais vraiment à tous les fans, aux fans de Solo, donc comme Seth Galano, hein. mais même tous ceux qui sont pas à fond en Solo, je pense que ça pourrait leur plaire aussi. Et voilà. J'ai dit ma note, j'ai dit 17. Donc, j'ai mis un 17 exactement comme la série de 2016, pour des raisons différentes. Mais 17 sur 20, ça reste un super comics. Quoi.
Alors, moi, tu vois, j'avais mis un 18 à la série, là, Han Solo, le vol du dragon, que, je sais plus quoi, là. Imperial Cadet, qu'est-ce que j'y avais donné? J'y avais donné un 14. Là, cette fois-ci, effectivement, les gens qui ont écouté l'émission ont l'impression qu'il y a zéro négatif. Moi, je vais mentionner un très léger point négatif, c'est en termes d'intérêt général de la grande histoire, de la série. C'est une très belle surprise, surtout que nos attentes étaient mauvaises. Donc, on s'attendait à du mauvais, c'est une belle surprise. C'est joli, une histoire intéressante, tout ça. Mais ça reste que, puis ça c'est très personnel par contre, l'intérêt pour cette histoire-là, pour le Han Solo, pour encore une xième histoire d'Han Solo, comme on en a déjà vu très souvent, est pas si élevé. Mais d'autres personnages qui ne jurent que par ce personnage, d'autres personnes qui adorent Han Solo risquent de l'apprécier beaucoup plus. Là. Fait que je veux pas trop le descendre rien que pour ça. Mais est-ce que c'est un tome que je vais vouloir relire l'année prochaine, par exemple, dans 2 ans? Pas certain. Mais c'est ça, je ne donnerai pas autant que celle-là de 2015. Moi, tu vois, j'y donne un 15 sur 20, donc un 75%. Okay. C'est quand même excellent au niveau de mes notes. Fait que, puis ça fait quand même du bien, parce que ces temps-ci, on avait eu quand même, entre la série Mandalorian et
oui,
voilà. Alcyon Legacy aussi, là. Ça avait fait mal. Fait que c'est ça. Quand même, ça se prend très bien. Surtout considérant les attentes qu'on avait. Et je pense que tout le monde va avoir à peu près les mêmes attentes. C'est parce que c'est tellement vu et revu, Anthony Chewbacca, qui font un vol, de haut vol, justement, l'opération. Fait que c'est ça. Mais moi, je vous le conseille. Surtout, comment dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, à Haute République, ces temps-ci, il y a des gens qui sont pas rendus, donc qui n'arrivent pas à suivre, donc, tu sais. Puis les séries, là, Crimson, ABC, tu sais, puis Star Wars, Vader, Aphra et les Bounty Hunters, que ça se passe tout en même temps, que ça s'intercale au travers des Hidden Empire, tout ça. Moi, ce que je vois beaucoup passer là, sur des forums, tout ça, c'est que les gens, là, il y a un petit peu un trop-plein de tout ça. Eux, par exemple, ça ne leur tente pas de lire les Aphra, donc sauf que là, il leur manque des informations, puis l'Aphra apparaît dans d'autres, tu sais. Alors que là, vous avez une mini-série, 10 numéros sur Han Solo et Chewbacca. Ça se passe justement à une période où on n'a rien, pratiquement, dans la chronologie Star Wars. Fait que c'est ça. Ça peut être un beau moment de détente.
Ouais, un bon one-shot. Ouais.
À conseiller. Fait que voilà. Écoute, sur ce, on peut peut-être mentionner vite qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a au menu pour les prochaines émissions?
Ouais. Ben, en litté, toujours. On aura, ben là, on va bientôt enregistrer notre humble review sur c'est Obi-Wan. Donc le tome d'Obi-Wan qui est sorti début mai, là, pour le 4 mai. Et donc, en roman, ça sera, tu l'as mentionné plus tôt, mais Cataclysme, c'est ça?
Oui, faut t'arrêter de te mélanger avec Cataliste.
Complètement
autre chose.
C'est ça. Donc Cataclysme, voilà, la suite de Convergence. Voilà. On y arrive. Convergence qui va bientôt sortir en France, je crois. Hein. Là, le Pass of Defeat est sorti.
Au mois d'août, je crois. Ouais.
Ah, ok, d'accord. Alors, en tout cas, là, je sais que les Français, là, ils s'éclatent dans la phase 2 de la Haute République, là, avec j'aurais pu dire le Pass of Defeat, voilà. Mais en VO,
c'est
là, on
la voix de. C'est quoi? Comment on traduit ça? La Dupri.
La Dupri. Donc, donc là, ça sera Cataclysme, le prochain podcast sur un roman. Et après, à côté de ça, je ne sais plus trop. Oui, on a toujours ce numéro musical qui n'est pas encore sorti sur John Williams et son œuvre.
Oui. Donc,
qui ne devrait pas tarder. Et puis voilà. Puis toujours nos petits quoi de neuf le mercredi. Donc,
en direct. Oui, c'est ça. Ben, il y a quand même beaucoup moins d'actu, hein, l'air de rien. C'est un peu le creux de la vague.
Et oui, post-célébration, c'est un peu moins fourni. Ouais.
Mais on vous invite quand même à toujours suivre. Justement, de toute façon, le leader suprême et toute l'équipe s'assurent aussi qu'il y ait du... C'est pour ça aussi l'épisode sur la musique, bon, on s'entend que c'est plus intemporel, là, ça n'a pas besoin de sortir à telle date. Donc, c'est ça. On vous assure d'un contenu continu grâce à toute l'équipe. Fait que c'est très bonnes critiques qui font quand même du bien au moral suite à des critiques beaucoup moins bonnes récentes qu'on va conclure cette édition de Star Wars en Tech en Star Wars en direct littérature. Comme toujours, ben, si vous avez des suggestions, des commentaires, etc., on vous invite à venir faire part de tout ça sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitch et évidemment sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est classique, hein, mais on vous le dit, n'hésitez pas à déjà aimer, partager, la cloche, tout ça. Ça fait toute une différence au niveau des algorithmes, au niveau référencement. Et maintenant, il y a aussi l'option des contributions monétaires directement sur YouTube, hein, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais c'est loin d'être une entreprise à but lucratif. Donc, on est loin de rentrer dans nos frais, hein, parce que ça coûte quelque chose, faire Star Wars en direct. Donc, voilà. Merci à tous, merci. J'espère que vous appréciez votre lecture comme ça a été le cas pour moi et Jean. Donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous!